mélodie souterraine. L'émission de la médiathèque Maurice Genevoix sur Studio Zef avec Jérôme et Thomas.
Attends. Laisse tourner le vinyle.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Mélodie Souterraine, votre émission musicale en alternance avec à contre-courant de la bibliothèque Abbé Grégoire. Mélodie Souterraine, c'est une plongée dans les réserves et les collections de la médiathèque Maurice Genevoix avec Jérôme. Salut Jérôme.
Salut Thomas, salut à tous et à toutes. Donc là pour cette nouvelle émission
du
mois
de ta sélection
de novembre, là j'ai plutôt opté pour des douceur automnale.
Très bien. À siroter au coin du feu avec un café ou un lait chaud.
Par exemple, ouais, complètement.
Sous le plaid au coin du feu.
Sous le plaid, ouais, tout à fait. Donc des extraits plutôt pétillants, des ambiances, je dirais, plutôt ouatées, feutrées.
Très bien.
Chatoyantes. Bon, par contre, il sera aussi question de personnes disparues.
Ça arrive dans
ces sélections. Ça arrive, ouais, le temps passe.
Exactement.
Et des personnes s'en vont, alors qu'ils sont déjà soit partis. Mais là, non, mais surtout, il y a eu l'annonce de deux disparitions simultanées, là, tout récentes, moi, qui m'ont attristé, parce que deux artistes,
de grands artistes
formidables. Mais on y reviendra un peu plus tard.
Très bien.
Alors, on débute avec une chanson du groupe Prefab Sprout, alors qui est une formation qui a éclos dans les années 80, qui est un groupe anglais. Après toute la déferlante punk, post-punk, new wave et autres, voilà, il y a des groupes aussi qui se sont un peu, peut-être un peu adoucis.
Ils sont allés chercher d'autres sonorités.
Aussi, ouais, dans les mélanges, mais aussi, voilà, revenir aussi à un certain romantisme, je trouve. Bah, je pense à la même époque, il y avait peut-être Loy Cole and the Commotion, Simple Minds, peut-être leur début.
Simple Minds, ouais.
Bon, voilà. Donc, j'associe un peu ce groupe à cette mouvance. Et là, l'album en question, alors c'est leur cinquième, qui date de tout début 80, de 1990. Ils sont toujours plus ou moins actifs. Alors, le leader, peut-être d'autres personnes le connaissent davantage. Moi, c'est Paddy McAloon, c'est lui qui mène la barque. Mais je pense qu'il est encore aujourd'hui...
Productif,
ouais. Il sort créatif. Encore des disques sous ce nom de groupe d'ailleurs. Bon, il est peut-être plus ou moins le seul du membre original, je ne sais pas trop. Mais... Bon voilà, enfin en tout cas, il mène sa barque.
On écoute le morceau Machine Gun Ibiza donc du groupe Prefab Sprout. L'album s'appelle Jordan Comeback.
He's a stone dead blues man. He's a top Romo star. He's a stone Delta blues man. He's a top Romo star. Black wand, white magic, nitroglycerine. He's earned the right to be known as machine. Gonna be the voodoo up, Romo down. Machine, gonna be the hanging ten with a hurricane sound. If you've never been nowhere, don't you pay that no mind. If you've never been nowhere, don't you pay that no mind. Feel part of no circle. If you make no scene, well you've earned the right to hang out with machine. Gonna be the voodoo up, Romo down. Machine, gonna be the with a hurricane sound. If you're a goddess, if your heart's 16, girl, you're gonna wake up buddies with machine. Gonna be the
Machine Gun Ibiza, donc du groupe Prefab Sprout. L'album s'appelle Jordan The Comeback, je l'ai dit.
Excellent, je trouve.
Très belle entrée en matière, effectivement.
Ouais.
Assez groovy, en même temps, voilà, on sent la pop rock de ces années-là, pop rock anglaise de ces années-là aussi, avec une formation guitare, basse, batterie, voix assez classique. C'est pas mal.
Ouais, enfin classique, mais en même temps avec des sacrés bons arrangements, je trouve. Mmh. Cette guitare-là, un peu, d'ailleurs, qui fait penser, pour les amateurs, mais à Marc Ribot, et que c'est pas lui, mais ça peut l'évoquer. Et ce binôme entre, il y a une chanteuse aussi, bon, là qui fait plus ou moins les chœurs, mais enfin voilà, c'est. Écoute, je n'ai pas arrêté à l'écoute de cet album de taper des pieds. Marquer le tempo dans le bureau. Alors,
parfait.
Mes collègues le savent.
Quand l'album est bon, ils l'entendent.
Ouais, c'est ça. C'est souvent
d'ailleurs. Ils l'entendent au son de tes pieds. Un marqueur. C'est un marqueur.
C'est un marqueur, ouais. Et d'ailleurs, le titre suivant également. Billy Joel. Alors, Billy Joel, ça c'est. Là, on est en Amérique. Moi, je suis pas plus sensible à ce monsieur. J'ai compris que c'était
qu'on ne présente plus de manière générale, quand même. Plutôt connu, Billy
Joel.
Oui,
oui. Il est considéré comme l'un des grands compositeurs, auteurs américains des années 70-80, même qui peut-être a eu tendance à aller un peu vers la variété. Enfin, bon, peu importe. C'est pas. Il n'y a pas de
jugement.
Pas de jugement particulier. Mais voilà, bon, moi, il ne m'a jamais tant tenté que ça. Mais là, en fait, qu'est-ce qui m'a arrêté sur cet album, qui date de 93, c'est que ce qui a éveillé ma curiosité, c'est la présence de deux musiciens. Mm-hmm. Le premier, Danny Kortschmar. Alors, on en avait parlé dans une émission assez lointaine, mais autour d'un projet qui s'appelait Slowlick, qui était un duo blues, dont lui à la guitare. Un musicien assez fabuleux. Et présence de T.M. Stevens à la basse. Pareil, j'en avais parlé parce que le monsieur aussi était parti un peu trop tôt de la planète. Et, et voilà, son approche de la basse hyper funky est tout à fait saisissante. Donc voilà, je me suis dit, dis donc, ils font partie des crédits, c'est incroyable. Alors, j'ai pris du coup la peine et le temps d'écouter l'album. Et franchement, c'est pas mauvais du tout.
Ok, tant mieux alors. On écoute la chanson Minor Variation, donc de Billy Joel, l'album s'appelle River of Dreams. Some days I have to give right into the bloom. Despite how I try to keep fighting, it's a sure shot I'm gonna lose. And I'll tell you why. You think I'm crazy? It's such a sad composition. But can you blame me? What's been causing my bad disposition? Ain't nothing new with my blue situation. And nothing's fine, it's just a minor variation.
Oh,
Extrait de l'album River of Dreams de Billy Joel, Minor Variation.
Savoureux.
C'est savoureux, ouais, ouais. C'est très significatif hein, de cette période, hein, des débuts des années de 90. Le son est assez typique. Hein, on se croirait dans la BO de 9 semaines et demie. Moi, je te disais, hein, la diffusion, on se croirait chez Joe Cocker. Alors, la voix n'est pas la même, évidemment, mais voilà, il arrive à la pousser quand même. Il y a ce truc, hein, effectivement, de variété, malgré tout, mais c'est diablement bien exécuté.
Ah, ouais, ouais. Carrément. Je recommande chaudement cet album parce que tout l'album tient la route. Hein.
Ok, et ben donc River of Dreams de Billy Joel à redécouvrir.
Voilà. Et bien le titre qui va venir, on est encore un peu dans la même.
Dans le même thème, hein, dans la même.
Enfin, même thème, disons.
Dans la même famille.
Le tempo va être assez irrésistible. Mm-hmm. Voilà. Il s'agit de Joe Jackson. Alors, lui est anglais. Mm-hmm. Il a sévi à la fin des années 70 et avec sa formation des débuts, bon bah voilà, tout à l'heure je parlais de post-punk,
ouais.
On était voilà, en plein boom. Et aux côtés de, par exemple, Police, Elvis Costello, même les Pretenders, enfin, toute cette frange, qui était assez électrique et assez dynamique, enfin même complètement dynamique. Après, lui, il a évolué aussi avec le temps, et notamment et vers les musiques aussi plutôt latines. Il a révisé, je dirais, des thèmes jazz, dont un album qui est fabuleux, qui est sorti dans les années 2000 autour de Duke Ellington. Okay. Et puis, c'est aussi un artiste qui sait s'entourer, quoi. C'est-à-dire qu'il sait choisir les musiciens, musiciennes adéquats pour chacun de ses projets. Donc, là, c'est un album paru en 82 et pareil, quoi. J'ai bien eu du mal, finalement, à définir un morceau plus qu'un autre, parce que tous les thèmes chansons tiennent la route. Mais voilà, je me suis arrêté sur...
Stepping Out, donc, de Joe Jackson. L'album s'appelle Night and Day. On écoute ça tout de suite. Jackson, c'était effectivement, je comprends que tes collègues t'aient entendu tapoter du pied le bureau, effectivement.
Ouais, clairement, notamment celui-ci. Et en fait, là, je suis en train de me dire, mais c'est une ambiance assez dance floor depuis tout à l'heure.
C'est vrai, finalement, tu me disais que c'était automnal, mais c'est plutôt l'automne, l'automne dansant, quoi.
Bah, oui, bah voilà, c'est... J'avais dit pétillant.
Pétillant, c'est vrai, tu as dit ce mot. Tu
donc,
as
cité ce papier. On y est. Et d'ailleurs, le titre suivant va pas déroger à la règle. J'ai choisi un extrait d'un album de Manu Dibango, alors qui date de 79, voire 80, mais je crois que la session a été enregistrée en 76. Enfin, okay. On est dans cette époque-là. Alors, Manu Dibango, bon.
Est-il besoin, comme Billy Joel, de le présenter?
En tout cas, grand musicien originaire du Cameroun, saxophoniste, chanteur. Bon, je fais juste un bref rappel historique. Il a surtout été reconnu dans le monde entier même, grâce à un morceau qui s'est appelé Soul Makossa. Mm. Makossa qui est un style musical du Cameroun d'ailleurs. Et en fait, la petite histoire, c'est que voilà, il était au Cameroun au début des années 70. Enfin, il a fait des allers-retours entre la France et le Cameroun, notamment en France pour ses études. Et d'ailleurs, il a été élève, pas très loin de chez nous, dans la Sarthe, à Saint-Calais.
C'est vrai, c'est incroyable ça.
Oui, oui.
Manu Dibango a été élève à Saint-Calais.
Oui.
Incroyable. Alors ça.
Et de retour, après avoir étudié un peu le saxophone, il est parti au Cameroun. Et là, on lui a demandé d'écrire l'hymne pour le championnat de foot d'Afrique.
Ok, ouais, la coupe des Nations d'Afrique, ouais.
Nations d'Afrique, c'est ça, exactement. Et du coup, il a écrit donc une chanson. Et en face B, il savait pas trop. À l'époque, c'était un format 45 tours, donc il lui fallait une face B. Et il est parti sur un thème et ça a découlé cette chanson.
Ça.
Ouais. Et ça a été redécouvert, enfin peu de temps après. Et ça a été un succès mondial. Hein.
Mm.
C'est-à-dire que ça.
La version de Dibango.
Ouais.
Ouais.
Ça a été joué partout dans le monde, notamment dans les boîtes de nuit. Et j'ai appris que même ça a été samplé aussi dans un album. Bah, je crois que c'est Michael Jackson dans l'album Thriller.
Ouais, je crois que c'est dans Thriller.
Ça a été repris.
Voilà. Le fameux, ouais. Je sais
exactement.
Plus dans quelle chanson c'est, mais je crois que c'est dans l'album Thriller.
Ouais. Et j'ai Rihanna aussi.
Rihanna, tout à fait.
Don't Stop the Music, ouais, je crois qu'elle a repris.
Absolument. Il y a un sample de Dibango dans Don't Stop the Music.
Voilà, pour situer le monsieur.
Et son influence sur les générations suivantes et sur les artistes notamment afro-américains,
ouais,
Jackson et Rihanna. Voilà.
Ah oui, oui, oui. Bon, après, ils ne sont pas très bien entendus parce que je pense qu'il n'a pas reçu tout l'argent.
Qu'il méritait, peut-être pas.
Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire.
Ouais.
Et paix à son âme parce que le monsieur est décédé en 2020. Alors là, l'album en question, en fait, c'est un album qu'il a enregistré à Kingston, Jamaïque. Et parce que il était intéressé par la scène reggae, donc il est parti là-bas. Et là, il a rencontré les musiciens du cru les plus légendaires. Enfin, à l'époque, c'était notamment la fameuse rythmique Sly and Robbie, Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, qui d'ailleurs ont eu aussi un succès évidemment, mais interplanétaire, mais notamment en France parce qu'ils ont enregistré avec Serge Gainsbourg à la fin des années 70, début 80.
L'album jamaïcain de Gainsbourg,
ouais.
Peut-être sans doute. Hein,
il en a fait deux.
Il en a fait deux.
Mais d'ailleurs extraordinaire. Donc voilà, il enregistre avec eux. Il s'y plaît tellement qu'il reste un mois. Enfin voilà, bon, il s'immerge complètement dans cette musique et découle donc cet album. Qui est assez saisissant. Et en plus, alors, il enregistre des pistes là-bas. Après, il va à New York et il demande à des musiciens aussi légendaires comme les frères Breaker, Michael Breaker et Randy Breaker, de faire les cuivres. Ben voilà. Et donc, le résultat est là.
Le résultat est dans cet album Rasta Souvenir Manu à la Jamaïque. On s'écoute Kava Chouya de Manu Dibango. Kava Chouya, Oube Kumbu Bese Bese, Kava Chouya. We'll be right back. Naturel de Manu Dibango, donc dans cet album Rasta Souvenir, donc de Manu ouais. à la Jamaïque, Kavashuya.
Ah oui, puis tout Super est bon, hein. Ouais. Tout est bon.
Tu sens que l'album, le reste de l'album n'est pas en reste sur voilà, ces sonorités et ces rythmiques assez incroyables.
Ouais.
On continue dans
la suite
nord-américaine, on va dire.
Ouais, c'est.
On parlait de Michael Jackson et de Rihanna juste avant.
Oui. Bon, bah, tout à l'heure, je parlais de décès prématurés. Du coup, là, il s'agit de D'Angelo. Alors, D'Angelo, ouf, artiste phare de la musique soul et, dirons-nous, même néo-soul.
Créateur hein, de la mouvance néo-soul.
Comme on a mis cette étiquette-là. Mais c'est vrai qu'il a, il a apporté, il a sa marque de fabrique. Et de là a émané bien d'autres artistes qui s'en sont réclamés, influencés. Et c'est vrai que, ouais, moi, je me souviens à la découverte, waouh, il a une manière d'aborder le groove, d'ailleurs, cette rythmique assez saccadée et très minimaliste, d'ailleurs, pour autant. Je pense que, même, ah non, peut-être un peu plus tard, mais pareil, dans le hip-hop, il y avait un DJ, G-Dilla, voilà. G-Dilla qui, pareil, amenait une rythmique assez, assez innovante et qui, lui aussi, alors pareil, il est parti, ce monsieur, de très bonne heure. Ouais. Voilà, mais je les mets ensemble parce que je trouve qu'ils ont l'un et l'autre vraiment amené de nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Voilà, et D'Angelo, finalement, n'a fait pas beaucoup de disques, hein. On en compte trois.
Trois en 25 ans de carrière.
Ouais.
En 20 ans, ouais, du coup, le premier en 95 et le dernier en 2014, et donc voilà. Trois albums dans cette période en 20 ans.
Ouais, ouais, carrément. Mais, et là, en effet, il est décédé là, il y a très peu de temps, à l'âge de 51 ans.
Ouais, c'est jeune.
Suite à un cancer du pancréas.
Ouais.
Eh bien, place et laissons la parole à D'Angelo.
Notre hommage de Studio Zef à D'Angelo, donc figure de la soul et de la néo-soul, disparu très récemment. On écoute le titre qui a donné son nom à l'album, au premier album de D'Angelo, Brown Sugar. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade, blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing when I'm kissing what I'm missing. Won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to be. Brown sugar, you are the sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to solo. Hope my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Oh, Laissez-moi vous parler de cette fille. Peut-être que je ne devrais pas, je l'ai rencontrée à Philadelphie et son nom était Brown Sugar. Nous avons fait l'amour en permanence, la manière dont elle l'embrasse, etc. Bref, on pourrait croire que D'Angelo parle d'une fille dénommée Brown Sugar. En l'occurrence, évidemment, il faut aller chercher un peu plus loin. Jérôme, on en parlait pendant la diffusion du morceau en studio. On parle bien de marijuana ou de shit. Enfin bref, voilà quoi. Donc on était dans une déclaration d'amour à la drogue, à consommer avec modération, voire illégale.
Hein. Oui, mais bon, bah D'Angelo, oui. Par contre, il était certainement, on pouvait le dire...
Voilà, l'écart entre le deuxième aussi, et le troisième album, entre 2000 et 2014, où il n'a pas sorti d'album, il a combattu des démons, notamment ouais. Certaines addictions, effectivement. Pas que, la dépression aussi, mais oui. Il y avait entre autres les addictions, ça va parfois ouais. Avec.
L'un va peut-être pas sans l'autre.
Tout à fait.
Ouais, bah D'Angelo.
Merci de nous avoir fait réécouter D'Angelo, ouais. Ça fait tout à fait plaisir.
Et voilà. Puis j'encourage aussi à écouter Erika Badu, qui
a collaboré avec...
Qui était l'une de ses partenaires ouais. À un moment donné. Angie Stone, bon, qui était même d'ailleurs son épouse. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a même Raphaël Sadiq,
ouais.
Et qui, d'ailleurs, avec qui il a collaboré déjà sur ce premier album. The Roots, évidemment, ouais. S'en réclame à souhait. Ouais, enfin ouais. Bon, et j'en passe et j'en passe.
C'est ça.
Voilà, donc paix à son âme. Là, du coup, on file en Californie, parce que, en effet, l'artiste en question, Jen Clark, a fait partie d'un groupe mythique qui s'appelle les Birds, mm-hmm. qui a donné ses premières lettres de noblesse au courant folk, country rock, okay. Psyché rock, enfin c'était vraiment, on était en pleine révolution musicale aussi mm-hmm. À cette époque aux États-Unis, enfin surtout sur la côte ouest.
Non, 74, je sais pas si tu l'as dit, mais ouais.
Oui, là pour cet album, il vient après,
d'accord.
Okay. Là je parlais des Birds.
Ok, ouais. Qui sont donc plutôt fin des années 60, c'est
ouais.
Ça
ouais, okay. Enfin mi-60, jusqu'à okay. La fin 60. Okay. Et lui, c'était la matière grise, dirons-nous, du groupe. Mm-hmm. Pour situer aussi, à la même époque, il y avait Buffalo Springfield.
Ouais.
Après, il y a eu, avec Neil Young, justement, Crosby, Still, Nash, mm-hmm. And Young, ouais. Quicksilver, le Grateful Dead, etc. Enfin voilà, on est... C'est l'avant... L'avant ou le pendant du mouvement hippie.
Hein. Okay.
Et donc, Jen Clark, après avoir quitté le groupe, voilà, a sorti cet album en 1974. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça a été un échec commercial cuisant.
Mm-hmm. Ça arrive. Alors, même les bons albums, des fois,
ah ouais.
Subissent des revers.
Ah ben, hein. Carrément, parce que j'ai lu qu'il avait coûté quand même l'enregistrement 100 000 dollars.
Okay. Ce qui devait
ce
être
qui
une
pas mal.
Grosse somme pour l'époque, tout à fait.
Mais alors, et ce disque, par contre, a été redécouvert là. Relativement tardivement, mais alors c'est devenu du coup un témoignage fort ouais, des années important. 70. Et voilà, donc plusieurs groupes aujourd'hui s'en réclament. Ça a même été rejoué par, c'est peut-être pas Wilco, mais enfin il y a un groupe qui a repris l'album dans son intégralité sur scène. Voilà, c'est devenu un album référence, c'est un sacré disque. Parce que on sent tout l'assemblage des courants de l'époque qui sont minutieusement orchestrés. Et alors c'est plutôt countryisant, mais faut rappeler qu'on est aux États-Unis et que c'est un peu la musique traditionnelle du pays. Et bien voilà, on écoute donc.
L'album s'appelle No Other, tu l'as dit, Strange of Things, Jen Clark. Yeah. Voilà donc pour cet album No Other donc de Gene Clark à redécouvrir après un premier pressage qui était passé inaperçu dans les charts. Donc cet album a été réhabilité plus tard et donc à redécouvrir puisque vous le possédez donc dans vos réserves, Jérôme.
Oui, et alors le monsieur c'est un peu à l'identique d'Angelo, enfin... sa vie a pris une tournure un peu similaire, c'est-à-dire plongé dans une dépression longtemps et finalement décédé en 1996 à 46 ans dans l'indigence.
Pas très loin de D'Angelo qui est mort à 50 ans. Ouais.
Voilà.
Okay.
Plutôt dans la pauvreté.
Ok, bon.
Et la misère. Du coup, l'enchaînement va se faire avec une formation qui vient à point nommé parce que eux aussi sont originaires de Californie, plus précisément de San Francisco. Et surtout, le lien, il est que musicalement, on est... je pense qu'ils peuvent aussi saluer la mémoire de Gene Clark, parce qu'on est tout à fait dans la même mouvance, la même empreinte, c'est-à-dire musique nord-américaine mélangeant blues, soul, gospel, country, mais de manière... remarquable, c'est-à-dire que eux aussi ont un savoir-faire dans l'alliage de tous ces courants, ces différents courants. Alors, j'ai pas eu trop d'infos sur le groupe. Ils ont débuté au tout début des années 90. Ils sont encore sur scène aujourd'hui, je pense. Ouais. Mais enfin, ça reste assez confidentiel. Et même à l'époque, là, parce que cet album de 95 est sorti sur le label American Recordings, qui n'est ni plus ni moins le label de Rick Rubin, qui, pour le situer comme producteur, a autant produit Johnny Cash, Slayer, les Red Hot Chili Peppers.
Okay. Enfin voilà. Une palanquée de grands artistes américains.
Et donc, leur album est sorti, enfin, leurs deux albums d'ailleurs sont parus sur son label même.
Okay.
On y va.
On écoute
la
donc
piste en question.
La piste Honey Dew, donc Mother Hips, l'album s'appelle Shoot Out.
This is the sound. Let it bring you down. We'll be right back.
Voilà pour cet album, donc de cette chanson du groupe Mother Hips qui s'appelait Honeydew. Voilà. Et donc j'apprends en regardant pendant la diffusion qu'un nouvel album de ce groupe vient de sortir en septembre dernier.
Ok.
Voilà, pour info. Si ça vous a plu, allez chercher ça.
Eh bien, je crois que
c'est très beau, hein, la fin là. Ça groovait. On sentait une belle guitare Alain, qui se déployait. C'était.
Ah, il y a une cadence assez significative, quoi, qui donne aussi envie de faire quelques pas de danse, quoi, pourrait-on dire. Bon, je crois que l'émission arrive.
Exactement, comme d'habitude, on se quitte en musique.
Terme. Et du coup, pour conclure, je souhaitais évoquer la mémoire de Jacques Dejeunette. Alors, je parlais tout à l'heure de
D'Angelo.
De disparition récente. En effet, Jacques Dejeunette, éminent batteur, compositeur, pianiste, parfois aussi, dans le monde du jazz. Alors,
que vous avez déjà pu entendre dans
Le discours. Alors, en effet. Mais moi, ça m'a. Oui, très attristé parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis depuis des décennies. Et puis, il a un parcours tellement incroyable. À la rigueur, quiconque n'y connaît rien en jazz, on peut partir de ce musicien et là, on parcourt des esthétiques, des courants, des évolutions vraiment formidables. Enfin, il a participé en tout cas à l'évolution de l'univers du jazz depuis qu'il a débuté. Alors bon, je ne vais pas citer tous les noms parce que c'est énormissime, mais on l'entend aux côtés de Charles Lloyd, Miles Davis, Keith Jarrett, Pat Metheny, Michael Brecker, David Murray, Wadada Leo Smith, et j'en passe et j'en passe. Il a aussi enregistré beaucoup d'albums sous son nom, notamment pour le label ECM, où à un moment donné, sa formation s'appelait le Special Edition, et à chaque fois, il invitait les musiciens les plus comment dire marquants de leur époque, les plus même innovants, et il les associait dans ses projets. Donc chaque disque avec cette formation, c'est à chaque fois inouï parce que on se rend compte de toute la richesse des propositions jazzistiques, dirons-nous, de ces mêmes de ces époques, quoi, à chaque fois. C'est vraiment des témoignages fabuleux. Et bon, il est parti à 83 ans.
Il a eu une belle
vie. À un moment donné, de toute façon, on n'est pas éternel, hein, évidemment. Non. Donc voilà, mais waouh. Moi, ça m'a fait chaud au cœur.
Il a pu en profiter et faire la musique qu'il aimait durant toutes ces années.
Et j'incite vraiment à redécouvrir, à revenir sur tous ces disques, parce que je pense que même aujourd'hui, c'est même certain, mais ça n'a pas pris une ride. Alors oui, cet album-là qu'on a dans les mains, en effet, j'ai remarqué que j'en avais déjà passé un extrait de ce même disque il y a quasiment 2 ans.
Très bien.
C'était en décembre 2023.
Okay.
Mais pourquoi j'ai encore opté pour cet album ? Parce que c'est que des univers contrastés d'un titre à l'autre, donc on n'est jamais dans la même, dans les mêmes textures, mêmes nuances. C'est éclaté au possible. C'est pareil, d'une richesse fabuleuse. Et pourquoi j'ai aussi opté pour celui-là ? Parce que finalement, on en a très peu en réserve. Mm-hmm. Parce que tous ces albums sont surtout en rayon. Donc je suis revenu sur celui-là. Mais on va surtout écouter une reprise qu'il fait d'un thème qui s'appelle Wichitaito. C'est une composition, je tiens à le mentionner, d'un saxophoniste fabuleux qui est parti aussi il y a déjà un bon nombre d'années, mais qui se nomme Jim Pepper. Et lui avait des origines amérindiennes. Mm-hmm. Et il a aussi était très inscrit dans sa culture même et qu'il a amené aussi dans ses enregistrements. Et ce thème-là, il est fabuleux. D'ailleurs, on peut même en écouter une version que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps par Robert Charlebois.
D'accord.
En 70-71. Okay. Et autre version aussi connue peut-être d'amateurs voilà, qui s'intéressent à ces musiciens, de Jan Garbarek à un moment donné. Voilà.
Et bien donc Jack DeJohnette, on se quitte avec donc une dédicace à Jack DeJohnette et à D'Angelo, donc disparu récemment, et qui ont fait partie de cette playlist mensuelle. Jérôme, on se retrouve le mois prochain, évidemment. Un mardi sur deux, c'est Mathias avec un contre-courant que vous retrouvez sur ce créneau, et évidemment quand vous voulez, en podcast sur le site de Zef. Salut Jérôme.
Salut.
Time.